voudrais commencer par dire à quel point je suis vraiment très heureux d'être là dans ce magnifique amphithéâtre et dans ce campus dont on parle depuis si longtemps. Et je suis vraiment très, très heureux de voir qu'on s'approche du but. Alors, cette conférence a un titre, donc la fin du capitalisme, avec un point d'interrogation, puisqu'il ne s'agit pas évidemment de se livrer à un pronostic sur la date de cette fin. Ce point d'interrogation, disons, peut être décomposé. Enfin, il y a au moins deux points d'interrogation. Il y a au moins deux questions derrière cette question générale, la fin du capitalisme. Il y a une question qui est, compte tenu des crises qu'on constate, en particulier la montée des inégalités, la montée de l'endettement, la financiarisation, d'une part, donc tout ce qui concerne l'inégalité, la finance, et compte tenu, évidemment, du réchauffement climatique, est-ce que ces deux grands défis, inégalité, climat, vont conduire naturellement, d'une certaine façon, à l'issue d'un certain nombre de crises, à la fin du capitalisme? Donc ça, c'est une première série de questions. Et puis, il y a une deuxième question, c'est est-ce souhaitable? Est-ce quelque chose, la fin du capitalisme, est-elle possible? Est-elle souhaitable? Les deux questions sont un petit peu différentes parce que ce que je voudrais répondre dans cette conférence, c'est que oui, il est possible et souhaitable d'en finir avec le capitalisme, ou en tout cas d'aboutir à un dépassement extrêmement radical du capitalisme. Mais non, ce serait une erreur de penser que ça va simplement être la conséquence de ces évolutions. C'est-à-dire que dans le fond, ces évolutions, la montée des inégalités, la financiarisation, la montée des dettes et même le réchauffement climatique, je pense que le capitalisme a suffisamment de plasticité pour s'en accommoder mal d'ailleurs. Ça ne veut pas dire qu'il va résoudre les problèmes, mais en tout cas, il va suffisamment circonscrire les problèmes, les déplacer ailleurs pour ne pas disparaître. Et je crois que le capitalisme a montré au cours du XXe siècle une plasticité, une capacité de résistance, de redéfinition. Il y a toujours des choses intéressantes dans ces redéfinitions, mais qui très souvent quand même repoussent les problèmes un peu plus loin. Et si on veut vraiment la fin du capitalisme ou un dépassement radical du capitalisme, je pense que le vrai défi, il est d'abord d'ordre intellectuel. C'est-à-dire qu'il faut penser sérieusement quelque chose d'autre que le capitalisme. On ne peut pas s'en remettre simplement à la puissance des faits, pour le coup, à la puissance des crises, à la puissance du chaos qui va nous débarrasser de tout cela. Donc évidemment, le chaos, les crises, les rapports de force, tout ça est important, a été très important dans le passé, sera important à l'avenir. Mais ce que montre aussi le passé, c'est que ce serait une erreur de s'en remettre simplement au spontanéisme révolutionnaire et aux crises qui vont nous amener à remplacer le capitalisme. Je voudrais quand même dire assez clairement qu'aujourd'hui, le pire allié, le meilleur allié ou le pire allié, je ne sais pas, de l'hypercapitalisme, c'est évidemment le post-communisme. C'est-à-dire que l'échec terrible qu'a été le communisme en Russie, en Europe de l'Est, fournit aujourd'hui, et aussi le communisme chinois sous sa forme maoïste et qui maintenant est devenu un espèce de capitalisme autoritaire avec parti unique, tous ces échecs du communisme sous sa forme soviétique puis sous sa première forme chinoise sont aujourd'hui vraiment les alliés les plus forts de l'hypercapitalisme, parce que ces échecs communistes ont conduit à une espèce de fatalisme qu'on voit bien aujourd'hui en Europe de l'Est, qui conduit à cette situation politique terrible où il n'y a aucun mouvement progressiste a une chance de se faire entendre, tellement les opinions se sentent, enfin, ont l'impression d'avoir été tellement flouées par toutes les promesses de la période communiste que toute croyance dans quelque chose qui ressemble à un idéal égalitaire, universaliste, internationaliste, est aussitôt évacué comme quelque chose de complètement dangereux et utopique, et utopique et dangereux. Et donc, on voit les dégâts causés. En Russie, la Russie est aujourd'hui le premier protecteur mondial des paradis fiscaux. Et d'ailleurs, c'est à se demander si finalement, une des raisons pour lesquelles on ne s'attaque pas complètement à l'opacité financière dans la place de Londres, etc., c'est que finalement, on craint que là, la réaction de la classe oligarchique russe, avec à sa tête le président russe actuel, soit assez terrible, en fait, à l'idée d'une possible... ce qui vivrait comme une expropriation. Ce sont eux-mêmes des avoirs dont ils se sont eux-mêmes procurés à la suite de privatisations totalement scandaleuses. Mais pour finir, il y a des chances qu'ils s'y accrochent assez sérieusement et que l'existence de ce pouvoir post-communiste soit un des freins sérieux, ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire, mais un des freins sérieux à la lutte contre l'opacité financière, les paradis fiscaux. Et du côté chinois, on a aussi cette situation incroyablement paradoxale où aujourd'hui, pour prendre un exemple que je trouve assez parlant, si vous voulez transmettre votre fortune en Asie, que vous avez fait fortune d'une façon quelconque, mieux vaut aller mourir en Chine qu'aller mourir dans les pays capitalistes, dits capitalistes autour. Dans le sens suivant, c'est que la Chine est le seul pays de la région où il n'y a aucun impôt sur les successions. Donc vous avez, si vous allez en Japon, vous avez un impôt sur les successions dont le taux supérieur était 45% il y a quelques années, a été monté à 55%. Si vous allez en Corée du Sud, c'est du même ordre. Si vous allez à Taïwan, donc dans la Chine capitaliste, c'est du même ordre. Mais par contre, si vous allez dans la Chine populaire, la Chine communiste, il n'y a aucun impôt sur les successions et vous pouvez transmettre votre patrimoine privé sans aucun impôt. Même en France, au 19e siècle, c'était un impôt de 1 ou 2% en ligne directe de parents-enfants. Donc c'était le sommet de la civilisation, disons, bourgeoise et propriétaire capitaliste à la française jusqu'à la Première Guerre mondiale. Mais en Chine, aujourd'hui, c'est carrément 0%. Et ça, c'est un des effets aussi du post-communisme. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de fatalisme, disons, par rapport à tout projet de redistribution, de réduction des inégalités, qui est une des conséquences, je pense, d'un échec perçu du modèle communiste au XXe siècle. Alors évidemment, c'est exploité à fond, à 200% par des groupes qui y ont intérêt, mais pour finir, ça marche. Donc tout ça pour dire que l'échec communiste du XXe siècle pèse très lourd dans le monde actuel et que autant essayer d'éviter de rejouer la scène une autre fois. Donc le spontanéisme révolutionnaire consistant à dire tout ça va s'effondrer et ensuite ce sera la fin du capitalisme, c'est pas très drôle à la fin parce que ça peut mener à des choses qui finalement ne font que renforcer le capitalisme lui-même sous ses formes les plus violentes, les plus extrêmes. Donc je pense qu'il y a vraiment un enjeu intellectuel à penser le lendemain du grand soir. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe ? Comment on organise en particulier les relations de propriété ? Parce que dans le fond, c'est bien de ça dont il s'agit, les relations de propriété, en particulier de propriété privée dans le cadre du capitalisme, de propriété des entreprises, de propriété de l'immobilier, de propriété de la nature parfois. Ces relations de propriété prennent une forme particulière dans le capitalisme et en vérité sont en permanence redéfinies dans les différentes phases du capitalisme et dans les différents pays et systèmes légaux de régulation de ces droits de propriété. La question, c'est est-ce qu'on peut repenser radicalement la propriété sous une forme qui permettent un véritable dépassement de la propriété privée telle qu'on la connaît aujourd'hui dans le capitalisme. Et donc, c'est à cette question très vaste à laquelle je voudrais m'attaquer aujourd'hui. Donc, je vous dis tout de suite, on ne va pas résoudre la question ce soir, mais on va essayer de progresser un tout petit peu. Je vais essayer d'avancer sur trois points différents et qui sont pour moi trois niveaux tout à fait complémentaires de dépassement de la propriété privée et de dépassement du capitalisme finalement et de redéfinition d'une autre forme de propriété. Donc trois niveaux. Premier niveau, ça va être de repenser la propriété proprement publique, étatique. Le deuxième niveau, c'est repenser le partage du pouvoir au sein des entreprises privées, en particulier à travers la question du partage du pouvoir entre salariés, actionnaires, qui est une question extrêmement profonde et extrêmement importante pour l'avenir. Et la troisième question, c'est repenser la notion de propriété privée temporaire. Et d'une façon, c'est peut-être ça le vrai point d'entrée derrière la notion d'impôt progressif sur le capital, qui est une façon de demander aux fortes détentions patrimoniales privées de rendre à la collectivité une partie importante de leur patrimoine privé chaque année, ce qui, d'une façon, c'est quand même un changement de contrat assez substantiel par rapport à la notion de propriété permanente et incessible, puisque la propriété privée, au-delà d'un certain seuil, en tout cas, devient de facto temporaire. Donc ces trois niveaux de dépassement de la propriété privée capitaliste n'épuisent évidemment pas le sujet. Il y a beaucoup d'autres questions, beaucoup d'autres dimensions. Mais je voudrais insister sur le fait que, mis ensemble, ces trois niveaux de dépassement du capitalisme donnent quand même quelque chose d'assez substantiellement différent du capitalisme tel qu'on le connaisse, si on pousse vraiment jusqu'au bout ces trois niveaux d'analyse. Et donc, ce que je vais faire dans cette conférence, c'est prendre ces trois niveaux d'analyse un par un, donc la question de la propriété publique, la question du partage du pouvoir dans les entreprises privées et la question de la propriété temporaire à travers l'impôt progressif sur le capital. Et je vais illustrer sur chacun de ces trois points les difficultés qui se présentent, qui sont à chaque fois surmontables, mais qui demandent un détour important par l'histoire. Et effectivement, Jean-Claude, je revendique, enfin, je rêve d'être plutôt, si vraiment je devais choisir une discipline dans les sciences sociales, je choisirais plutôt l'histoire que l'économie. Je me sens beaucoup plus proche d'une démarche historique, essayer de partir des sources. Et je pense qu'une des raisons de notre désillusion, parfois démocratique, qu'on a aujourd'hui, c'est cette division des savoirs très excessive qui fait que beaucoup de citoyens se trouvent démunis face aux questions économiques et financières. La responsabilité, je crois, est très partagée. C'est-à-dire, il y a une responsabilité, évidemment, de tout un groupe d'économistes ou parfois de technocrates qui ont qui se sont appropriées les questions économiques et financières en prétendant que ce sont des questions tellement techniques et tellement scientifiques que personne d'autre ne peut comprendre à part un petit groupe d'élite. Et donc, il faut abandonner ces questions à une petite minorité d'experts. Et ces prétentions complètement exorbitantes ont fait beaucoup de mal. Mais en même temps, il y a une responsabilité aussi de tous ceux qui les ont laissés faire. C'est-à-dire qu'il y a une responsabilité très forte de tous les citoyens qui doivent s'emparer de ces questions, parce que c'est facile de dire « je ne connais pas les questions économiques, je ne suis pas économiste », comme on dit, donc moi, je n'ai pas vraiment d'opinion. Mais ben, si, justement, il faut avoir une opinion. C'est trop facile. Ce n'est pas une matière facultative. Il faut s'en emparer. Il y a ceux qui prétendent qu'ils sont à la tête d'une science indéchiffrable, sont des charlatans. Cette science n'existe pas. On est en sciences sociales. On rassemble des matériaux en empirique. Notre seul avantage comme chercheur, c'est d'être payé pour cela, donc d'avoir beaucoup de temps pour retrouver ces matériaux. Mais je crois que toute prétention supplémentaire en termes de capacité à théoriser supérieure au commun des mortels est totalement nulle et non avenue, là, en tout cas dans l'immense majorité des cas, et certainement dans le mien. Donc je pense que tout ce qu'on peut faire, c'est d'essayer de se mettre au service des citoyens. Et je pense que c'est très important aussi que tous les historiens, les sociologues, cesse d'abandonner le terrain des questions économiques aux économistes. Et là, je pense qu'il y a vraiment un enjeu intellectuel et où la division des savoirs est en partie responsable d'une partie de notre désillusion démocratique actuelle. Et donc moi, je milite fortement, oui, pour un retour d'une histoire qui soit économique, politique et en même temps culturelle, sociale. Je ne pense pas qu'on puisse séparer la question de l'étude des représentations culturelles de celles des faits qui ne sont jamais des faits, puisque les catégories sont elles-mêmes produites justement par le système politique, par le système de représentation. Donc notre capacité à dégager des évolutions concernant les salaires, les patrimoines, les conditions de vie sont elles-mêmes tributaires de l'ensemble des représentations politiques et des institutions légales, politiques, économiques, sociales qui ont été forgées par les différentes sociétés. Donc il y a une interaction permanente entre les niveaux économiques et politiques, et j'espère que voilà, le campus Condorcet sera un des endroits, je pense que l'EHESS en particulier est un des rares endroits au monde où on essaye de pratiquer, ne serait-ce que par le choix des collègues dans l'Assemblée générale des enseignants, un dialogue entre les disciplines ou en tout cas un peu plus d'attention aux autres que ce qu'on observe à peu près partout ailleurs dans le monde. Donc c'est déjà ça. Et je crois qu'il y a, voilà, il y a toujours plus à faire. Et l'enjeu, pour finir, est en partie politique. Donc je reprends mes trois temps sur lesquels je vais insister dans cette conférence. Donc repenser la propriété publique, repenser le partage du pouvoir des entreprises et repenser la propriété privée sur une base temporaire, notamment à travers l'impôt progressif sur le capital. Donc premier point, repenser la propriété publique. Donc évidemment, l'idée que la propriété publique va tout régler a fait beaucoup de mal. C'est-à-dire que l'idéal d'une propriété étatique qui devient hégémonique, comme ça a été tenté en Union soviétique et à un moment en Chine, a conduit à des désillusions terribles, parce qu'une fois que vous avez dit « j'abolis la propriété privée, on a une propriété étatique hégémonique », c'est très très bien, mais ça repousse le problème plus loin, qui est l'État ? Comment on organise l'État ? Comment on organise la gouvernance de cette gigantesque collectif ? Est-ce qu'on a des élections ? Est-ce qu'on a des partages du pouvoir ? Et la vérité, c'est que personne n'y avait beaucoup réfléchi avant la Révolution. Donc le marxisme, au début du XXe siècle, se prétendait scientifique. Hein, on n'était pas le socialisme proudhonien, misérabiliste, etc. On était le socialisme scientifique. On avait préparé notre coup, entre guillemets. Sauf que la vérité, c'est qu'il n'y avait absolument rien de préparé. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun début de commencement de réflexion de comment on organise l'État, de comment on organise les décisions très difficiles, forcément conflictuelles, d'allocation des ressources entre différents secteurs industriels, entre le secteur agricole et le secteur industriel. Donc toutes ces questions très difficiles n'étaient absolument pas préparées. Les bolcheviks se sont mis à partir dans une fuite en avant sur la personnalisation du pouvoir à l'extrême, puisque n'ayant pas tellement préparé comment la gouvernance de toute cette nouvelle puissance étatique allait s'organiser, bon, bah, la personnalisation du pouvoir est apparue comme la solution la plus simple. Comme ça ne marchait pas très bien, on est parti dans des cycles de consistant à trouver des boucs émissaires un peu partout. Bon, on ne va pas refaire toute l'histoire, mais disons que le changement de régime et la sortie du capitalisme n'avait absolument pas été préparé, c'est moins qu'on puisse dire. Donc on est parti là-dedans, la fleur au fusil. Bon, c'est très bien, mais c'est facile de dire qu'on n'aime pas le capitalisme et qu'on n'aime pas la propriété privée, mais encore faut-il être précis sur ce qu'on veut mettre exactement. Donc la solution, toute propriété publique, n'est clairement sans doute pas la solution. Maintenant, le fait que ce ne soit pas la solution ne veut pas dire que ce n'est pas une partie de la solution. C'est-à-dire, je pense qu'il continue d'avoir aujourd'hui un besoin dans beaucoup de secteurs d'activité d'une propriété publique au sens classique, d'une propriété étatique. Ça concerne des secteurs pas tout à fait négligeables comme l'éducation, la santé. Je suis heureux que voilà, le campus Condorcet soit un campus public, qu'on n'ait pas des publicités pour Apple le long du campus en nous expliquant que c'est la seule façon de le financer. Enfin bref, il y a tout un tas de choses qui définissent la propriété publique, financée par l'impôt, et on en a besoin. On en a besoin dans l'éducation, dans la santé, on en a besoin dans l'énergie. Les grands investissements sur les énergies renouvelables demandent des financements publics. On en a besoin dans les infrastructures de transport. Alors, au final, qu'est-ce que ça veut dire qu'on devrait avoir comme part de la propriété publique dans le capital national ? Je n'ai pas, évidemment pas de formule mathématique à donner, mais c'est sans doute une part non négligeable. Donc, ce n'est pas le 100% de l'Union soviétique, c'est ce qui n'a évidemment jamais complètement existé, mais disons, pour simplifier. Mais c'est peut-être un quart, un tiers, certains pourraient dire 50%. On n'a pas de formule mathématique parce que dans le fond, tout dépend de comment on organise une gouvernance démocratique, une participation des citoyens derrière ce qu'on appelle propriété publique. Parce qu'en fait, il y a des milliards de propriétés publiques. En Chine actuellement, on a une part de l'État dans la détention du capital chinois qui est sans doute de l'ordre de 30%. Qui dissimule des très fortes disparités, c'est-à-dire que le logement a presque entièrement été privatisé, donc l'immobilier résidentiel est maintenant à 98% privé, mais par contre les entreprises restent à environ 50% ou même un peu plus public. Donc comme en gros le capital national se partage en la moitié d'immobilier résidentiel et la moitié d'entreprises, c'est ça qui vous donne, mettons, 30% pour la part de l'État chinois. La question dans un cas comme ça, c'est pas de savoir est-ce qu'on est à 30%, 20%, 40%, c'est quelle est la gouvernance qui est derrière et que comment fonctionne en l'occurrence le Parti communiste chinois et est-ce que c'est une bonne façon d'organiser de façon transparente, participative la gestion du bien public. Bon, c'est pas sûr. Hein. Donc voilà, au-delà du chiffre combien pour la propriété publique, il y a quand même surtout la question de la démocratie derrière, de comment l'État lui-même est constitué, organisé. Dans le cas des pays occidentaux, je voudrais juste alerter sur un point qui me paraît important et qui est un point factuel sur lequel on a beaucoup insisté dans le récent rapport sur les inégalités mondiales qu'on a sorti en 2018 avec une équipe de l'EHESS et de l'École d'économie de Paris qui regroupe les efforts de... Il y a plus d'une centaine de chercheurs groupant maintenant 70 pays parce qu'on a fait un peu des progrès depuis le livre Jean-Claude dont tu parlais tout à l'heure qui est paru en 2013, que j'ai écrit en 2012, donc il y a déjà 6 ans. Et donc en 6 ans, les choses ont continué. Et en particulier, un des grands chantiers, ça a été d'étendre ce travail de collecte de données historiques à beaucoup d'autres pays, notamment en dehors du monde occidental, à la Chine, à la Russie, à l'Inde, et en Brésil, à l'Afrique du Sud, quelques pays en Afrique de l'Ouest. Et un des effets, je dois dire, très positifs du succès de ce bouquin, ça a été, dans un certain nombre de cas, de pouvoir mettre la pression sur des administrations nationales, des États, pour ouvrir leurs archives fiscales, financières, économiques, et mettre un peu plus de transparence et nous permettre de sortir un peu d'une perspective très occidentalo-centrée, qui est un des défauts, parmi beaucoup d'autres, de ce livre, pas complètement de ma faute, en partie lié à des problèmes d'accès aux sources, mais qui pèse quand même sur les limites de ce livre. Donc, un des résultats qu'on a mis en valeur dans le rapport sur les inégalités mondiales 2018, que vous trouverez très facilement, gratuitement en ligne, évidemment, en tapant ces mots, rapport sur les inégalités mondiales 2018, un des faits, c'est que le patrimoine public, enfin, il y a un effondrement, disons, pour dire simplement, du patrimoine public dans les pays riches au cours des 30 dernières années, et la façon la plus spectaculaire de résumer ça, c'est qu'en fait, le patrimoine public est devenu, dans un certain nombre de pays, et notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni, et ce n'est pas une coïncidence, est devenu ces dernières années négatif. Je vais tout de suite dire ce que ça veut dire, mais dans mon bouquin en 2013, si vous regardez le livre, vous verrez que le seul pays développé qui était arrivé à un niveau négatif de patrimoine public, c'était l'Italie. Mais depuis, les choses ont avancé, et après la crise, etc., les États-Unis et le Royaume-Uni, qui sont quand même des pays pas complètement... sans importance du point de vue du paysage capitaliste global. Enfin, l'Italie est aussi importante, mais les États-Unis et le Royaume-Uni pèsent encore plus. On est à un niveau négatif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, un patrimoine public négatif ? Ça veut dire quelque chose de très simple. Ça veut dire que les dettes publiques dépassent le capital public. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si l'État fédéral américain, d'ailleurs, là, ça regroupe aussi les États fédérés, ou l'État britannique, ou l'État italien, mettaient en vente tous les actifs publics, donc, par exemple, le campus Condorcet, enfin, version... italien ou britannique, mais aussi toutes les écoles, tous les hôpitaux, de toutes les écoles dans lesquelles on envoie nos enfants deviendraient du patrimoine privé. Il faudrait payer des loyers aux propriétaires privés des écoles pour pouvoir les utiliser pour envoyer nos enfants. Même en faisant ça, même en vendant tous ces actifs publics, ce ne serait pas suffisant pour rembourser les dettes publiques en Italie, mais aussi aux États-Unis et au Royaume-Uni. Donc c'est ça que ça veut dire un patrimoine public négatif. J'ai tout dit qu'en France et en Allemagne, c'est très, très légèrement positif d'après les données dont on dispose, qui sont très imparfaites de toute façon. En vérité, un peu partout, ça s'est rapproché de zéro, alors qu'on était, dans les années 70, à un niveau qui était de l'ordre de un quart. C'est-à-dire que c'était dans l'après-guerre des années 50, 60, 70, on était dans un système qu'on décrivait parfois comme le système d'économie mixte, c'est-à-dire qui était ni le communisme, mais qui était ni le capitalisme complet. Et effectivement, c'était une époque où, d'une part, les dettes publiques étaient faibles, en partie parce qu'on s'en était débarrassé après la Seconde Guerre mondiale, avec beaucoup de pragmatisme. Les dettes avaient été annulées par des impôts exceptionnels sur le patrimoine privé, par des annulations pures et simples, par de l'inflation, par des suspensions de dettes dans le cas de l'Allemagne, par exemple, dont toute la dette extérieure à la conférence de Londres de 1953 a été annulée, ou plus précisément a été repoussée au moment de la future éventuelle unification allemande. Et puis en 1991, au moment de l'unification, on a dit, bon, bah, en fait, on va l'oublier complètement. De toute façon, en 1953, on avait complètement oublié de l'indexer sur l'inflation et la croissance économique, c'est ballot. Et donc, forcément, les milliards de marques de l'époque, de toute façon, n'ont plus aucune signification, donc oublions complètement. C'était des bons choix qui ont été faits dans les années 50. 60, de se débarrasser des dettes du passé pour investir dans l'avenir. Toujours est-il que la puissance publique dans les années 50, 60, 70 n'avait très peu de dettes publiques, 10-20% du PIB. Donc le PIB, c'est cette unité de mesure qui permet, qui pose toutes sortes de problèmes, mais qui, par rapport au fait d'aligner les milliards d'euros qu'on oublie tous les uns après les autres et qu'on ne peut pas comparer d'une période sur l'autre ou d'un pays à l'autre, ça permet d'exprimer quand même les choses sur une base un peu moins bête, un peu moins incomparable, puisqu'on ramène tout à une année de production intérieure brute du pays. Et quelles que soient les incertitudes sur cette mesure de la production, sa signification, ça permet quand même de mettre en comparaison, et c'est d'ailleurs une vertu des statistiques en général, de mettre des comparaisons des pays, des époques qui sont très difficiles à comparer entre eux autrement, et qui, d'ailleurs, parfois ne veulent pas se comparer les uns aux autres, chacun insistant sur sa spécificité irréductible. Si on utilise cette mesure, ce qu'on constate, c'est que dans les années 50-60, donc la dette publique est très très faible, le capital public est un secteur public important, sans compter le secteur des infrastructures, je dirais, classiques, dans l'éducation, la santé, les transports qui se développent à cette période-là. Et au total, le capital public représente entre une année et demie de revenu national ou de produit intérieur brut dans la plupart des pays ouest européens et aussi aux États-Unis, au Canada, à un moment où le patrimoine privé représente, lui, l'équivalent de 3 années, de 3 à 4 années de production nationale. Donc on voit une année et demie contre 3 années, 4 années. En gros, la part du public dans le capital national, c'est entre un quart, un tiers. Ce qui est un peu la Chine aujourd'hui, ce n'est pas incomparable. Donc c'est une situation, un quart, un tiers, où l'État n'est pas hégémonique, mais il est quand même le premier propriétaire du pays, de très loin, et ça lui donne des capacités d'agir dans des secteurs dans lesquels il se fixe des priorités, notamment éducatifs, énergétiques, de transport. Donc ce n'est pas rien. Alors que quand vous avez aujourd'hui un capital public négatif, ça veut dire quoi ? Donc ça veut dire que, je vous disais tout à l'heure, même si on vendait tout le capital public, ça suffirait pas pour rembourser les dettes. Alors je propose pas cette solution, on serait tous scandalisés intuitivement de devoir payer des loyers aux propriétaires privés des écoles auxquelles on envoie nos enfants. Mais d'une certaine façon, c'est déjà ce qu'on fait. C'est-à-dire que quand on paye des intérêts sur la dette publique, c'est l'équivalent de payer des loyers sur les écoles si on les avait privatisés pour rembourser la dette publique. Donc là, on ne s'en rend pas toujours très bien compte actuellement en France et en Allemagne, parce qu'on est très content par rapport à d'autres pays d'Europe du Sud d'avoir des taux d'intérêt très faibles, et donc on considère que tout va bien et que la charge de la dette est tout à fait soutenable. Mais du jour où les taux d'intérêt remontent, on se rendra compte qu'une dette publique de l'ordre d'une année de revenu national, ça coûte très cher en remboursement, équivalent à ce qu'on paierait comme loyer à des propriétaires privés des écoles. Donc on s'en rend moins compte parce que ça passe par l'intermédiation financière, c'est un peu plus abstrait comme processus, mais dans le fond, c'est la même situation. Et quand on a un patrimoine négatif, ça veut dire qu'en fait, de facto, les propriétaires privés détiennent non seulement la totalité des actifs publics à travers les actifs financiers qu'ils détiennent dans le système bancaire, mais en fait, ils détiennent même plus que ça, puisque justement c'est négatif, c'est pas nul. Et qu'est-ce qu'ils détiennent ? Ils détiennent un droit de tirage sur les contribuables futurs. Donc ça peut aller très très loin. C'est-à-dire le patrimoine public pourrait être très négatif, hein, pour continuer. Enfin, il n'y a pas de fin dans cette histoire. Et les raisons de ce processus, c'est typiquement des baisses d'impôts pour les plus favorisés, qui crée du déficit depuis Reagan, mais ça a été fait aussi en France ailleurs, qui crée du déficit. Et ensuite, on dit, bon, bah, là, il y a eu déficit. Hop, on va vendre, on va faire des privatisations pour combler une partie du déficit. Mais en fait, on continue à réduire les impôts après. Et donc, finalement, on augmente la dette en même temps qu'on diminue les actifs publics. Et donc, le patrimoine public net. Juste pour prendre un exemple caricatural qui s'est passé l'an dernier, mais qui aide à comprendre le processus. Le gouvernement, l'an dernier, a réduit l'impôt sur la fortune, l'impôt sur le revenu des revenus de patrimoine. Les plus importants, intérêts, dividendes, a dépensé à peu près 5 milliards d'euros, entre 5 et 6 milliards d'euros par an comme réduction d'impôts pour ce groupe social. L'année suivante, a dit, tiens, si on privatisait Aéroport de Paris, ça nous rapporterait 8 milliards d'euros. Ça tombe bien, on vient de perdre 6 milliards d'euros en recettes. Hop, on pourrait... Bon, mais dans ce cas-là, autant transférer la propriété directement et gratuitement. Ça aurait été plus simple. Enfin, c'est-à-dire que donc, ce type de processus, c'est très concret. Je ne dis pas à nouveau que les aéroports, ça doit forcément être public, que tout doit être public. On peut y réfléchir collectivement. Ce sont des questions complexes et la gouvernance qui est derrière est complexe. Mais ce processus par lequel vous réduisez les impôts du privé et ensuite vous donnez les actifs publics, vous transférez les actifs publics, c'est un processus qui est différent du cas russe extrême, vraiment de pillage absolu des ressources naturelles par un petit groupe d'oligarques, mais qui n'est pas complètement de même nature. Donc on est dans des différences de degrés plus que dans des différences principielles. Donc voilà, c'est une évolution. Alors comment on va en sortir de tout ça? Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on a eu plein d'exemples dans l'histoire de dettes publiques beaucoup plus importantes que celles qu'on a actuellement. On a des cas, le Royaume-Uni au 19e siècle a l'équivalent de 2 années de PIB de dette publique. L'Allemagne et la France en 1945 ont 2 années de PIB de dette publique, donc encore plus que la Grèce aujourd'hui et pour des économies d'une taille beaucoup plus considérable. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on s'en est toujours sorti. Et une des leçons de l'histoire, c'est qu'il y a plusieurs façons de s'en sortir. Aucune n'est simple, il y en a plusieurs. La façon britannique au 19e siècle, ça consiste à rembourser pendant des dizaines et dizaines d'années par des gros surplus budgétaires, des intérêts aux propriétaires privés qui ont prêté cet argent et qui finalement, au lieu de leur faire payer des impôts, on leur reverse des intérêts pendant des dizaines et des dizaines d'années. Alors, il faut dire que quand le processus a commencé dans les années 1820-1830, il y avait qu'à peine 1% de la population qui avait le droit de vote. Donc là, le processus politique lui-même secrétait d'une certaine façon sa propre solution qui est on fait payer le reste de la population des impôts pour rembourser. Et c'est vraiment ce qui s'est passé. Je veux dire, c'est pas une caricature. C'est-à-dire des années 1820 aux années 1900, il y a un excédent permanent du budget britannique sur un petit budget qui est moins de 10% du PIB de l'époque. On dégage 2, 3, 4% d'excédent. Donc vous avez 20, 30, 40% des argents des impôts britanniques, qui sont beaucoup des impôts indirects sur les vêtements, les boissons, tout ce que vous voulez, qui repayent les emprunts qui ont été souscrits à des taux d'intérêt très avantageux par la classe propriétaire britannique au début du siècle. Donc ça, c'est une solution qui me paraît un peu le scénario catastrophe pour l'Europe du 21e siècle, mais qui malheureusement n'est pas complètement exclue, parce que même si on a un suffrage qui n'est plus censitaire, on a des règles politiques qui peuvent nous conduire à faire la même chose. Alors on peut aussi l'éviter, il y a d'autres solutions, comme je disais tout à l'heure, l'Europe dans les années 50 a été plus maligne, a su se débarrasser rapidement des dettes du passé par un mélange de méthodes rapides qui peuvent être des annulations de dettes pures et simples ou des repousser la dette comme le processus que je décrivais tout à l'heure pour l'Allemagne 40 ans plus loin et finalement l'oublier tellement elle est devenue minuscule compte tenu de la croissance et de l'inflation. Il y a toute une panoplie de solutions. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup aujourd'hui en Europe, c'est que je ne vois pas les conditions où on pourrait voir se mettre en place une délibération démocratique apaisée sur ces questions. Et je vois plutôt une montée des tensions nationalistes. Le nationalisme, il existe évidemment au Front National ou à la Ligue italienne qui vont désigner les immigrés, les pays étrangers comme les responsables de tout. Mais le nationalisme, ne nous trompons pas, il existe aussi chez les personnes du centre droit, du centre gauche qui gouvernent l'Allemagne, qui gouvernent la France depuis un certain nombre d'années et qui expliquent que tous les problèmes de l'Europe, en gros, viennent des paresseux d'Europe du Sud et que ces paresseux d'Europe du Sud veulent prendre une partie de l'argent du travail allemand, du travail d'Europe du Nord et qu'il suffirait qu'ils se mettent à travailler, à exporter comme des Allemands et des Hollandais pour résoudre tous les problèmes, ce qui, pour le coup, relève d'une pensée magique et complètement irrationnelle, parce que le degré d'excédent commercial allemand actuellement, 7-8% du PIB chaque année, quelque chose qu'on n'a absolument jamais vu, à part dans des petites économies pétrolières, mais qu'on n'a jamais vu dans l'histoire pour un pays de cette taille, c'est quelque chose qui, par définition, ne pourrait pas être généralisé au niveau de toute la zone euro, parce qu'il n'y aurait personne dans le monde pour absorber un excédent commercial. Donc le discours consistant à dire, comme malheureusement l'ont trop souvent dit des responsables politiques allemands des dernières années, voilà, il suffit que tout le monde fasse comme nous et tout va se régler, Enfin, c'est pas qu'il y a des, pas des choses à apprendre de l'Allemagne, il y a des choses à apprendre de la France, il y a des choses à apprendre de l'Italie, et je vais y revenir dans une seconde. Il y a beaucoup de choses à apprendre, mais la solution consistant à dire tout est de la faute des autres, si seulement ils faisaient comme nous, si seulement ils faisaient différemment, tous les problèmes de l'Europe seraient réglés. Je vois cette tendance monter aujourd'hui en Europe. Je vois ce qui se passe en Italie. Encore là, aujourd'hui, là, le gouvernement italien qui renvoie un bateau rempli de 650 personnes en Méditerranée en disant bah non, bah voilà, vous avez qu'à rester, nous, on ne vous prendra pas sur notre territoire, alors qu'ils n'ont pas le droit du point de vue des règles d'assistance internationales en vigueur. Là, on se retrouve avec ces situations où l'Espagne dit ah bah tiens, vous allez faire 24 heures de bateau, 36 heures de bateau, il n'y a plus de vivre à bord pour aller vous poser à Valence, personne ne sait ce qui va se passer. Enfin, ça devient quand même vraiment très, très critique comme situation. Et donc, je pense que là, collectivement, il faut vraiment se poser des questions, y compris en France, et avant tout en France, parce qu'en France, on a tendance à se défausser sur l'Allemagne en disant tout ça, c'est pas de notre faute, nous, on voudrait bien une solution journée. Mais la vérité, c'est que la France, en fait, a été très égoïste aussi vis-à-vis de l'Europe du Sud dans toute cette crise des dettes, parce que fondamentalement, la France se tient serrée à l'Allemagne en se disant on est du bon côté, on a des taux d'intérêt très bas. Les pays d'Europe du Sud nous embêtent. Sauf que ce dont on se rend compte maintenant, c'est que une bonne partie de l'opinion dans les pays d'Europe du Sud, et notamment en Italie, en a marre de toute cette histoire et peut être tentée par un retour à la lire, à l'inflation, qui est évidemment une solution très simple pour se débarrasser d'une dette publique. Mais ça s'accompagnerait en même temps de toutes sortes de tensions nationalistes entre pays qui, je pense, pourraient avoir des conséquences extrêmement graves. Donc, voilà, on a besoin d'une solution concertée. Moi, j'ai écrit avec des collègues, notamment Stéphanie Hennette, professeur de droit à l'Université de Paris-Nanterre, Antoine Vauchez, Guillaume Sacriste, professeur et chercheur en sciences politiques à l'Université Paris-1, Panthéon-Sorbonne. On a écrit ce petit proposition de traité de démocratisation de l'Europe l'an dernier, qui n'est pas la solution miracle, mais qui a le mérite de mettre sur la table des propositions concrètes, avec l'idée d'une assemblée démocratique de la zone euro, dans laquelle chaque pays serait représenté par des députés nationaux de l'Assemblée nationale française, du Bundestag allemand, en proportion de la population, en proportion des différents groupes politiques, avec l'idée que la souveraineté fiscale, on ne peut pas contourner les parlements nationaux. Et si on veut prendre des décisions ensemble sur des impôts communs, sur des annulations de dettes ou repousser des dettes dans le temps, ces décisions ont besoin d'une légitimité démocratique forte. Et tant qu'on sera dans une gouvernance européenne avec d'un côté un Parlement européen qui en fait est très faible, parce que justement il n'émane pas directement des parlements nationaux, et de l'autre des conseils de chefs d'État, des conseils des ministres des Finances qui ont tout le pouvoir, mais qui ne sont pas des machines à fabriquer de la délibération démocratique, parce que quand vous avez un individu pour représenter 80 millions d'Allemands, 70 millions de Français, 10 millions de Grecs, c'est une machine à produire de l'affrontement d'intérêts nationaux, ou en tout cas perçu comme tel, c'est de la délibération à huis clos, où on vous annonce au milieu de la nuit qu'on a sauvé l'Europe pour la 17e fois, et puis on se rend compte dans la journée qui suit qu'ils ne savent pas eux-mêmes ce qu'ils ont décidé, et les journalistes, les citoyens ne sont même pas capables de savoir, puisque de toute façon tout s'est passé à huis clos. Donc on a quand même un modèle de gouvernance qui ressemble plus au congrès de Vienne de 1815 qu'à ce qu'on pourrait espérer comme gouvernance aujourd'hui. Donc, mais on peut faire mieux. Je pense que les propositions comme cette Assemblée démocratique de la zone euro, ce n'est pas la solution miracle, il faut l'améliorer, le repasser, mais il ne faut pas laisser ces questions à d'autres. Il y a très souvent la difficulté, je trouve, en Europe actuellement, c'est que dès qu'on veut avoir un débat institutionnel, tout le monde arrête d'écouter, dit « Oh là là, mais c'est très fatigant, l'organisation de la démocratie, tout ça, ça m'ennuie ». Bon, d'accord, très bien, mais il y en a qui n'ont pas besoin d'organiser la démocratie, ce sont les marchés, les forces capitalistes qui, effectivement, se passent très très bien de toutes ces institutions démocratiques, enfin, tant que leurs intérêts sont protégés. En tout cas, ceux qui en ont le plus besoin, ce sont les plus démunis dans le système actuel, et les classes populaires, les classes moyennes. Et je pense qu'il y a un besoin de s'emparer de ce débat européen si on veut trouver des solutions pour sortir de cette situation quand même très inquiétante de richesse publique négative et de très fort niveau de dette publique dont je pense qu'il n'est pas prêt de sortir du paysage. Hein. C'est-à-dire que là, on le voit avec la crise italienne, dont une des revendications des deux mouvements au pouvoir, c'est évidemment l'annulation de la dette italienne, notamment vis-à-vis de la Banque Centrale Européenne. Mais ça va revenir d'une façon ou d'une autre. Et si on ne trouve pas une solution rationnelle, collective, pour ça, les gouvernements au pouvoir, comme en Italie, vont se défouler de plus en plus sur les migrants, les étrangers. Ça va devenir atroce, cette histoire. Hein. Donc, derrière ça, il y a des enjeux économiques, il y a des enjeux de dette publique, il y a des enjeux macroéconomiques, et donc il faut s'en emparer parce que derrière tout ça, il y a d'immenses enjeux humains et aussi un enjeu plus général de repenser la propriété publique pour dépasser le capitalisme. J'en viens à mon deuxième point, et je vérifie que je ne suis pas totalement parti du temps qui m'est imparti, mais je vais accélérer sur mes deux autres points. Deuxième point, la question, repenser le partage du pouvoir dans les entreprises privées. Donc la question de la propriété publique, même si on se débarrasse de la dette publique et qu'on a des beaux campus Condorcet, beaucoup de beaux actifs publics, ça ne va pas tout résoudre non plus. C'est bien, mais ça ne suffit pas. Donc repenser le partage du pouvoir dans les entreprises privées. Donc là, je voudrais juste revenir un peu en arrière. On s'imagine parfois qu'il y a une règle intangible qui est que la démocratie politique, c'est un homme, une voix, et puis la décision dans les entreprises, c'est une action, une voix. Bon, en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ça a toujours été beaucoup plus compliqué que ça. D'ailleurs, même au XIXe siècle, vous avez des systèmes de suffrage censitaire dans lesquels le nombre de voix augmente parfois avec l'impôt payé, qui ressemble beaucoup à des systèmes d'action, une action, une voix. Donc, ça a toujours été plus compliqué que ça. Et il faut aussi insister sur le fait qu'au XXe siècle, à la suite des crises liées aux guerres mondiales et des crises aussi idéologiques liées aux défis posés par le communisme, de nombreux pays, notamment l'Allemagne et la Suède, ont mis en place des systèmes de partage du pouvoir au sein des entreprises qui sont loin d'être parfaits, je vais y revenir, il faut les dépasser, mais qui sont quand même des dépassements substantiels. Donc en Suède, depuis le début des années 50, les salariés ont un tiers des sièges dans les conseils d'administration, et ce ne sont pas des sièges consultatifs, ce sont des vrais droits de vote. En Allemagne, c'est la moitié des sièges. Alors, la moitié moins un, c'est-à-dire que la moitié des actionnaires est décisive en cas de partage égalitaire des voix, donc ce n'est pas tout à fait la moitié, comme vous pouvez voir, mais ce n'est pas complètement insignifiant, parce que si vous avez au sein des actionnaires différents groupes, qui peuvent être parfois des fonds de pension, parfois des États régionaux qui ont des participations dans l'entreprise, ou différents acteurs capitalistes qui n'ont pas forcément le même point de vue, d'autres acteurs capitalistes, vous pouvez faire basculer la majorité. Et tout ce que montrent ces expériences, qui quand même durent depuis un demi-siècle, en Allemagne, en Suède et dans d'autres pays d'Europe du Nord, c'est que ça a permis quand même une implication des salariés, en particulier dans la stratégie d'entreprise, qui globalement marche très bien. Alors, ça peut être dépassé, mais c'est quand même important de se dire pourquoi ça ne s'est pas diffusé plus tôt. Je pense que dans les processus de diffusion historique des idées en général, des idées politiques, des idées économiques, c'est intéressant de voir pourquoi des fois il y a des choses qui se diffusent très vite, d'autres qui se diffusent très lentement. Le Royaume-Uni, la France, les États-Unis, par exemple, n'ont jamais adopté ce type de législation, alors que c'est en place depuis les années 50 en France, et en Allemagne et en Suède. La France, il faut attendre 2014, donc il y a 4 ans, pour que la France introduise dans la loi un siège, hein, par rapport à 12 pour les actionnaires, pour une voie délibérative et non pas consultative, donc un vrai droit de vote pour les représentants des salariés dans les conseils d'administration des entreprises. En Angleterre, aujourd'hui, ça continue d'être zéro, ça a toujours été zéro. Aux États-Unis, ça a été zéro, ça a toujours été zéro. Mais c'est susceptible de changer dans le proche avenir. C'est-à-dire qu'en France, on voit quand même un début d'un consensus se créer pour augmenter ce nombre de voix, même si le gouvernement actuel a un peu du mal à l'entendre, mais ça va finir par lui venir. Même le Royaume-Uni, on voit vraiment le débat monter, y compris du côté des conservateurs, même si c'est quand même plutôt le Parti travailliste, en cas d'alternance la prochaine fois, qui portera là une réforme majeure. Ce sera un truc très important qui se développera sur ces questions-là. Pourquoi ça ne s'est pas fait plus tôt ? Je pense qu'il y a des responsabilités, là, pour le coup, intellectuelles, et c'est là que les débats intellectuels sont importants, les débats d'idées sont importants. Des responsabilités intellectuelles à la fois, je dirais, dans les partis de gauche, mais aussi dans les mouvements patronaux, les partis de droite. En France, pour le dire vite, en France, comme au Royaume-Uni, jusqu'aux années 70, l'objectif, c'était vraiment la nationalisation des moyens de production. Et donc, donner des voix aux salariés dans les conseils d'administration privés, ça paraissait vraiment du pipi de chat social-démocrate, bon pour les Allemands et les Suédois, mais pas très sérieux quand on veut changer les choses. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles non seulement la gauche française dans les années 70, mais aussi le Parti travailliste britannique et ne l'a pas fait. Ils n'étaient pas loin de le faire au milieu des années 70, avant que Thatcher arrive au pouvoir. Ils avaient une réforme intéressante, mais bon, finalement, voilà, il y a plein de bifurcations historiques. Les choses ne sont pas écrites d'avance. Il y a plein d'acteurs qui jouent un rôle dans ces évolutions et qui auraient pu faire que les choses se font différemment. Toujours est-il qu'on en arrive là dans les années 2010-2018, et finalement, la France, le Royaume-Uni, va peut-être s'y mettre. Ça, c'est le premier point sur lequel je voulais insister. Donc, à nouveau, la perspective historique est intéressante. Et le deuxième point, c'est que ce système germano-suédois, disons pour simplifier, ce n'est pas la fin de l'histoire. C'est-à-dire que c'est intéressant, mais on peut faire beaucoup mieux. Donc, on peut faire beaucoup mieux. Et ça fait partie des domaines sur lesquels la réflexion intellectuelle doit s'exercer. Je donne deux pistes qui ont été discutées par un certain nombre de juristes ces dernières années, au Royaume-Uni, en France, en Belgique, dans différents pays. Première piste, une des limites du modèle qu'on appelle parfois de codétermination à l'allemande, c'est que finalement chacun joue son rôle. Donc vous avez des représentants des salariés, des représentants actionnaires, les représentants des salariés défendent les salariés, les représentants des actionnaires défendent les actionnaires, et puis à la fin, c'est toujours les actionnaires qui gagnent. Donc finalement, enfin, disons, la critique un peu radicale du système, c'est de dire finalement voilà, chacun est dans son rôle, on n'a pas fait bouger grand-chose. Une proposition qui a été faite, c'est de dire en fait, pour désigner les administrateurs, les membres du conseil d'administration, il faut peut-être dès le départ une assemblée mixte d'actionnaires et de salariés qui va permettre en fait d'essayer de construire des majorités pour être élu comme administrateur qui reprennent à la fois des voix de salariés, des voix de certains actionnaires par rapport à d'autres, ce qui bien que les gens ensuite au conseil d'administration ne seront pas simplement là pour représenter soit les blancs, soit les noirs, enfin, soit les salariés, soit les actionnaires, mais soit plutôt sur une coalition de projets, sur un projet permettant de porter une orientation différente. Donc c'est une vision qui paraît comme ça un peu idyllique, mais je pense qu'il peut quand même changer assez radicalement les choses, et dans le projet britannique qui se prépare en cas d'alternance, il y aura des choses comme ça, et ça, on va voir que ça va devenir intéressant si et quand ça se fait. Deuxième piste, qui est plus intéressante encore, je crois, c'est l'idée de voir que les frontières entre le secteur associatif et le secteur des fondations, par exemple, et le secteur des sociétés par action, en fait, ces frontières, il faut justement essayer de penser l'entre-deux. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de formes de gouvernance, de démocratie participative qui sont possibles à l'avenir, qui n'ont tout simplement pas été inventées jusqu'ici. Donc on a le droit, enfin, c'est pas parce que voilà, le communisme soviétique a été un échec lamentable qu'il faut s'arrêter de penser à la propriété et à des formes de propriété à inventer. Donc je donne un exemple, il y a eu des propositions ces derniers temps dans le secteur des médias de créer ce qui a été appelé des sociétés de médias à but non lucratif, qui seraient des formes intermédiaires entre les sociétés par action et les fondations, c'est-à-dire que ce seraient des formes où, en gros, les petits apporteurs de ressources, par exemple des citoyens qui participeraient à des campagnes de crowdfunding pour sauver un journal ou développer un nouveau média, auraient des droits de vote qui augmenteraient plus que proportionnellement avec le rapport au capital de la fondation, enfin de la société de médias. Et à l'inverse, les plus gros actionnaires auraient des droits de vote qui seraient sérieusement plafonnés. Donc le point extrême, c'est la fondation où, en théorie, vous donnez 1 million, vous n'avez pas plus de droits de vote. Bon, en fait, souvent, vous vous mettez dans le conseil d'administration, vous renouvelez votre famille, etc., etc. Mais ça se passe de façon plus opaque. Donc là, ce modèle-là est plus explicite dans le plafonnement des droits de vote de ceux qui apportent beaucoup. Ça pourrait tout à fait être étendu à d'autres secteurs que les médias. Alors, on voit l'intérêt particulièrement dans les médias pour éviter des Bolloré et compagnie qui censurent ce qui leur va pas dans les médias qu'ils ont achetés. Mais ça peut s'appliquer aussi à d'autres secteurs. Je trouve que ce qui est intéressant aussi dans cette idée, c'est que par rapport au modèle de société coopérative, dont on a beaucoup parlé dans les décennies passées, au XXe siècle, au XIXe siècle aussi, un des problèmes de la société coopérative, c'est que l'extrême choix d'un salarié, une voix, dans certains cas, n'est pas complètement adapté. C'est-à-dire que vous prenez une petite entreprise, ou même un peu plus grande, un restaurant là, dans le quartier Aubervilliers, est-ce que la personne qui a mis 10 000 euros, 20 000 euros d'économie, qui s'est investi depuis 15 ans dans son restaurant, est-ce qu'il doit avoir exactement le même droit de vote que la personne qui vient d'arriver hier dans la société, qui n'a pas mis d'euros, c'est peut-être pas une très très bonne idée dans le fond. Ce qu'on veut pas, donc avoir des droits de vote qui augmentent un petit peu quand on met 10 000 euros, 20 000 euros plutôt que zéro, c'est pas absurde. Le problème, c'est qu'on veut éviter que quelqu'un qui arrive avec 10 millions rachète tout et a tout le pouvoir. Donc le partage du pouvoir, c'est quelque chose de plus compliqué que juste soit un homme, une voix, un salarié, une voix, soit une action, une voix. Et toutes ces formes intermédiaires de gouvernance, en fait, elles sont expérimentées. C'est-à-dire qu'on a des formes de société dans les médias, dans la culture, qui imaginent des gouvernances comme ça. Et je pense qu'il faut prendre au sérieux ces questions. Il faut arrêter d'être uniquement là dans la fin du capitalisme ou le capitalisme continue. Il y a beaucoup d'enjeux qui se situent à ce niveau-là. Et le troisième point sur lequel je vais conclure, c'est cette idée de repenser la propriété sur une base temporaire. Donc là, c'est vraiment cette idée de l'impôt progressif sur le capital. Donc je voudrais vraiment insister sur le fait que il n'y a pas de solution miracle dans ce domaine. C'est vraiment en cumulant les différentes approches, les différents systèmes de régulation des relations de propriété, par la propriété publique, par le partage du pouvoir, le plafonnement des droits de vote les plus élevés, etc., et aussi par la fiscalité, par l'impôt progressif. C'est en combinant toutes ces solutions, qui trop souvent sont opposées les unes aux autres, alors qu'on a juste besoin de l'ensemble, qu'on peut y arriver. C'est comme ça depuis toujours. C'est-à-dire qu'en particulier, l'impôt progressif sur les successions, depuis le 19e siècle et surtout depuis le début du 20e siècle, a été un mode de régulation assez puissant permettant de limiter la perpétuation des relations de propriété. C'est une façon de dire, voilà, il y a un moment, le droit de propriété va s'arrêter ou en tout cas va être sérieusement amputé de 20%, 30%, 40%. Ça a été aux États-Unis, au Royaume-Uni, au milieu du 20e siècle, ça a atteint 70-80%. La France et l'Allemagne en sont restées à des niveaux limités à 30-40% pour les transmissions en ligne directe, les plus hauts patrimoines transmis en ligne directe entre parents et enfants, alors que les États-Unis et le Royaume-Uni, à un moment, étaient à 70-80%. Bon, c'est aussi qu'en France et en Allemagne, la redistribution du patrimoine s'était faite par les guerres, par les destructions, par l'inflation, donc on a moins utilisé l'outil fiscal qu'aux États-Unis, au Royaume-Uni, où là, on a voulu, d'une certaine façon, faire la même chose d'une façon extrêmement radicale, ce qui est qu'on oublie parfois, et c'est intéressant de voir les circonstances, les coalitions politiques qui ont permis ça, qui se sont retournées depuis l'époque Reagan, mais voilà, ce que montre cette longue histoire de l'impôt progressif, c'est que les choses peuvent changer beaucoup plus vite qu'on croit, et que la boîte à outils est quand même assez considérable. Alors, elle est considérable, mais ce qui a été tenté dans le passé, je pense, n'est pas suffisant. Donc, en particulier, l'impôt progressif sur les successions n'est pas suffisant. Et je pense qu'il faut vraiment un outil qui soit une régulation annuelle du droit de propriété à travers l'impôt progressif annuel sur la propriété, qui peut atteindre, qui, pour des détentions importantes, des niveaux extrêmement élevés et qui peut atteindre... Donc, mettons, voilà, chacun a un patrimoine qui dépend de son logement, de son épargne, on retire ses emprunts, donc un patrimoine net. Tant que vous êtes à 100 000 ou 200 000 ou 300 000 euros, l'impôt peut être prélevé à un taux très très faible, 0,1%, 0,2%, plus faible que ce qu'on paierait actuellement sur une taxe foncière qui, pour le coup, ne prend même pas en compte les emprunts. Hein, ce qui fait que quelqu'un qui a aujourd'hui en France, quelqu'un qui possède un appartement qui vaut 100 000 euros, 150 000 euros et qui a un emprunt du même montant, en fait, n'est pas riche. Enfin, il est comme un locataire qui va devoir rembourser très très longtemps son emprunt avant d'être riche et paye le même impôt que quelqu'un qui aurait hérité de cet appartement et qui aurait même hérité de 500 000 euros d'actifs financiers, et donc aurait en plus de son appart de 100 000, 500 000 d'actifs financiers, il paierait exactement la même taxe foncière que celui qui a 100 000 euros d'appart et 100 000 euros d'emprunt. Donc ça marche, on marche complètement sur la tête. Si c'est comme ça, c'est uniquement parce que le système actuel de taxe foncière a été introduit par la Révolution française dans les années 1790, très grande réforme à l'époque, puisqu'il s'agissait de faire payer les aristocrates et les roturiers le même impôt sur la propriété foncière. Avec deux limites quand même, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas d'actifs financiers ou très peu, donc on ne prenait pas vraiment en compte la question des actifs financiers, des dettes, et on se disait, bon voilà, si on prend juste en compte l'immobilier, les terres agricoles, l'immobilier, ça va suffire. Alors c'était peut-être bien à l'époque, sauf que deux siècles plus tard, ne pas prendre en compte les actifs financiers, les portefeuilles financiers, les dettes, c'est quand même un peu embêtant. Donc je pense que ça, c'est aussi un des prix à payer pour le manque d'appropriation intellectuelle par les citoyens, les forces politiques de ces questions, qu'on laisse comme des questions techniques, dérivées au fil de l'eau. Parfois c'est réformé, parfois on laisse les choses comme ça en l'état pendant parfois des siècles, et finalement on a un système qui est profondément injuste et qui peut miner aussi le consentement fiscal et l'acceptation de la solidarité au niveau collectif si on ne prend pas les choses à temps pour les rendre plus justes, plus acceptables. Alors l'impôt progressif sur le patrimoine a été finalement introduit en France très tardivement après les élections de 1981 sous la forme de l'impôt sur la grande fortune, a été transformé en impôt sur la fortune en 1988, et vient d'être supprimé donc l'an dernier sur toute la partie patrimoine financier, justement, qui est la partie qui représente 90% des plus hauts patrimoines. Donc c'est vraiment une suppression en bonne et due forme, même si ça prétend garder la partie immobilière. Je pense que c'est quelque chose, c'est une décision que je trouve extrêmement regrettable. Tous les arguments qui sont étudiés sur les soi-disant fuites de capitaux étrangers ne sont factuellement, pour le coup, ne sont pas là dans les données de l'impôt sur la fortune. C'est-à-dire qu'on voit année après année les patrimoines déclarés à l'impôt sur la fortune qui progressent de 5, 6, 7% par an à tous les niveaux de patrimoine. Et ce n'est pas simplement dû à l'immobilier, y compris les plus hauts patrimoines sur lesquels il y a surtout des actifs financiers progressent encore plus vite que les patrimoines plus faibles qui ont de l'immobilier, typiquement à 5 millions d'euros, 10 millions d'euros de déclaration d'ISF, ça progresse chaque année de 5, 10% par an. Donc l'idée d'une hémorragie fiscale n'est juste pas là dans les faits. Et donc là, il y a une construction d'un discours qui s'est faite au fil des années qui a permis de faire ça. Je pense que c'est une erreur. Mais si on se d'oublie un petit peu comme ça cette actualité franco-française immédiate, je pense que très au-delà, il y a une réflexion sur le fait que correctement appliqué, et les problèmes derrière sont des problèmes non pas techniques, mais des problèmes politiques, et donc des problèmes intellectuels. Mais il n'y a pas de difficulté technique à bien le faire. Et un impôt progressif à patrimoine qui serait bien fait, sans doute, commencerait avec des taux assez modérés, donc comme je disais, sur des détentions de 100 000, 200 000 euros, ce serait peut-être 0,1%, 0,2%. Et puis, pour des patrimoines vraiment élevés, 1 million, 5 millions, 10 millions, 50 millions, 100 millions, pourraient atteindre là des niveaux très élevés. Je veux dire, très élevés, c'est... Vous voyez, sur un patrimoine, si vous avez un taux qui monte à 10% ou à 20% par an, bon, ça veut dire qu'au bout de 5 ans, si vous avez 20% par an, le patrimoine d'un milliard d'euros a été complètement redistribué à la collectivité. Donc ça devient une propriété temporaire de 5 ans. C'est ce que font À leur façon aussi, les droits de propriété intellectuelle, c'est un vrai enjeu de savoir est-ce qu'on a le droit de posséder éternellement le savoir ? Est-ce qu'on a le droit de posséder éternellement des brevets ? Et là, il y a des vrais enjeux sur est-ce qu'on a le droit, comme ça, de s'approprier des bibliothèques publiques parfois ? Est-ce qu'on a le droit de s'approprier des connaissances ? Voilà, si quelqu'un pouvait mettre son droit de propriété sur le théorème de Pythagore et sur chaque fois qu'un enfant dans le monde utilise le théorème de Pythagore, bon, évidemment, le patrimoine privé augmenterait démesurément, sauf que les connaissances, elles, n'auraient pas progressé d'un iota. Donc, c'est la notion de qu'est-ce qu'on a le droit de posséder ou pas est tout à fait centrale, et on vit à une époque où, sans s'en rendre compte, on laisse des choses dériver. Donc il y a plusieurs façons d'y répondre. Le droit de la propriété intellectuelle, évidemment, est central. Le droit de l'environnement, le droit de la nature est central. Mais l'impôt progressif sur le capital est aussi une façon structurellement de rendre la propriété temporaire. C'est-à-dire de dire, au-delà d'un certain montant, ben voilà, vous allez devoir rendre à la collectivité 10%, 20%, pourquoi pas 50%, 100% si on veut. De toute façon, il y a forcément un niveau. Si vous possédez la terre entière, il va bien falloir en rendre 99%. Donc, mais réfléchissons-y dans ces termes. Parce que je pense que la façon dont on l'a fait historiquement, c'est typiquement avec des réformes agraires. Donc les réformes agraires, c'est comme ça une forme radicale où on dit au-delà de 200 hectares, il va falloir redonner 80% de vos terres et le redonner aux paysans en dessous de 5 hectares. Ça a été fait plein de fois dans l'histoire. Il y a des milliards d'exemples, plus ou moins chaotiques, mais ça a été fait plein de fois. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas vous en sortir en le faisant une fois et après laisser le système redériver avec d'autres formes de propriété financière, etc. En fait, l'illusion de la réforme agraire, c'est aussi l'illusion historique que dès lors qu'on sort du monde rural et du monde de la propriété terrienne et qu'on rentre dans le monde de la propriété industrielle ou financière, les problèmes vont se régler d'eux-mêmes parce que le dynamisme de la croissance, le fameux G auquel tu faisais référence, va à lui tout seul résoudre les problèmes de sédimentation de l'inégalité, d'accumulation, de perpétuation de l'inégalité. Alors qu'en fait, c'est pas le cas. Et moi, de ce point de vue-là, et je voudrais conclure là-dessus, j'ai été très marqué dans mes recherches, dans ma trajectoire intellectuelle, par l'étude du cas français, qui est particulièrement intéressant, mais parce que dans les archives successorales françaises, et notamment parisiennes, dans lesquelles nous avons beaucoup travaillé avec mes collègues Gilles Postel-Vined, le HESS, Jean-Laurent Rosenthal, qui est un franco-américain, qui a passé beaucoup de temps dans les archives successorales parisiennes avec nous, on s'est constaté le degré absolument invraisemblablement élevé de concentration de la propriété parisienne à la veille de la Première Guerre mondiale en 1914. Ça m'a beaucoup frappé pour la raison suivante. C'est que si vous regardez les débats de l'époque en France, les élites de la Troisième République, du centre-gauche, du centre-droit, aiment beaucoup décrire la France comme un pays de petits propriétaires. C'est vraiment l'idée de la France est le pays de l'égalité. La France a fait la Révolution française, donc la France n'a pas besoin d'impôt progressif. Et de fait, la France est en vérité, la France aime bien comme ça se présenter comme ayant une grande histoire d'amour avec l'égalité depuis toujours, au moins depuis la Révolution. En vérité, c'est le dernier pays occidental à avoir introduit l'impôt progressif sur le revenu. Et elle l'a introduit non pas pour financer des écoles, mais pour financer la guerre contre l'Allemagne. Donc la loi du 15 juillet 1914, qui était bloquée par le Sénat depuis 20 ans, elle est débloquée uniquement parce que la guerre arrive et il faut financer les budgets pour la guerre. Et donc ensuite, ce sera utilisé pour des choses plus utiles, des écoles et toutes sortes de choses. Mais au départ, c'est ça qui débloque politiquement. Alors que le Royaume-Uni a un impôt sur le revenu depuis les années 1840 qui est devenu progressif en 1908, donc pas très longtemps avant, mais quand même par temps de paix. La Suède, l'Allemagne, le Japon ont des impôts progressifs sur le revenu depuis les années 1870-1880, donc ça commence quand même à dater. Même les États-Unis ont un impôt progressif fédéral sur le revenu depuis 1913, alors c'est seulement un an avant, mais à nouveau c'est par temps de paix et à l'issue d'un processus de ratification d'amendement à la Constitution américaine qui initialement interdisait d'avoir un impôt fédéral sur le revenu, extrêmement lourd, c'est très compliqué de réformer la Constitution américaine, ça a été fait, finalement l'impôt est créé, la France en 1914, ce sont les bons derniers. Et l'argument qui est donné en permanence dans les débats français de l'époque, c'est de dire... Écoutez, nous, on a fait la Révolution française, ça suffit, quoi. On a rien besoin d'autre. On est un pays de petits propriétaires, donc à quoi servirait un impôt progressif et spoliateur sur les propriétés ou les hauts revenus, puisqu'on n'en a pas chez nous. Donc le Royaume-Uni, eux, c'est un pays aristocratique, c'est horrible, etc. Il faut vraiment qu'ils en mettent un. Les Allemands, c'est un peuple autoritaire, tout ça. Bon, eux, ça leur ferait pas de mal non plus. Mais nous, en France, à quoi voulez-vous que ça nous serve ? Sauf qu'en fait, dans les données... les archives successorales qu'on a étudiées, vous avez en 1913-1914 le même niveau de concentration patrimoniale qu'en Angleterre aristocratique ou qu'en Allemagne, pour une raison simple, c'est qu'à ce moment-là, la concentration patrimoniale, ce ne sont plus les propriétés aristocratiques terriennes qui ne comptent que pour du beurre. Ça représente moins de 5% du capital national au Royaume-Uni, un peu plus en France, l'agriculture un peu plus importante, 10%, mais ce n'est pas significatif. Les accumulations patrimoniales à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, sont des accumulations modernes, entre guillemets, des actifs financiers, des patrimoines placés à l'étranger, des niveaux de capitalisation boursière en 1914, en année de PIB, qu'il faut attendre 2000-2010 pour retrouver les mêmes niveaux en France, au Royaume-Uni, aux États-Unis. Donc, une très grande modernité d'un côté, avec des innovations, dont on invente l'électricité, la voiture, enfin des choses quand même au moins aussi utiles que Facebook aujourd'hui. Donc on a beaucoup de modernité d'un côté, mais en même temps une concentration patrimoniale extrême, du même niveau que l'ancien régime, voire encore un peu plus élevé. Et ça, ce que ça montre, c'est que le mythe de la réforme agraire, qui va régler les choses une bonne fois pour toutes, et que dès qu'on sera sorti de l'âge terrien, le monde industriel et financier se régulera de lui-même, est factuellement faux, pour le coup. Et on voit aussi, avec un siècle de recul, le niveau d'hypocrisie des élites qui, parfois, voilà, pour défendre leur précaré, sont prêts à des constructions intellectuelles extrêmement imaginatives, mais peu fondées. Donc ça, c'est facile de le voir quand on regarde les choses avec un siècle d'écart. Ça, c'est l'avantage de la matière historique. On regarde ces débats de 1914, 1910, 1900, c'est tout à fait passionnant. Mais moi, ça m'a beaucoup marqué parce que par rapport au monde d'aujourd'hui, qui est évidemment pas exactement le même, dans lequel les États ont pris beaucoup plus d'importance, le poids des prélèvements obligatoires, le poids de la protection sociale, donc je ne cherche pas du tout. Il y a plein de différences fondamentales. Mais le point commun, c'est que voilà, on a besoin de questionner en permanence les affirmations parfois voilà, d'autorité qui sont faites par les détenteurs du pouvoir économique, financier, politique. Et pour conclure, je voudrais dire que pour moi, c'est à ça que servent les sciences sociales. C'est-à-dire que cette remise en perspective historique des questions d'inégalité, de patrimoine, de dette, pour moi, indique une chose. Il ne s'agit pas de dire « voilà la solution, il suffit de faire ça », etc. Mais il s'agit de dire ce qu'on apprend de l'histoire, c'est qu'il y a toujours plusieurs trajectoires possibles. Il y a toujours plein de bifurcations possibles. Et dire aujourd'hui « il n'y a qu'une seule façon de résoudre la crise de la dette, il n'y a qu'une seule façon de résoudre les inégalités », etc. C'est tout simplement faux, parce qu'on voit dans l'histoire une imagination, parfois, qui part dans des directions qu'on peut critiquer après coup, mais il y a aussi des bonnes solutions. On peut trouver dans les leçons de l'histoire des façons de construire une nouvelle façon de réguler la propriété et finalement de dépasser le capitalisme. Merci pour votre attention.